18h-20h,
votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour ces deux heures d'infos à la une de l'actualité. Ce soir, un combat, celui de Gisèle Halimi pour l'avortement et pour faire reconnaître le viol comme un crime itinéraire de cette combattante décédée ce matin à l'âge de 93 ans. Dans un instant, dans votre journal, François Clouse. Bonsoir François.
Bonsoir Thierry, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
18h20, l'angoisse des agriculteurs, plus de 50 départements en alerte sécheresse, un sale coup encore pour les récoltes. Comment s'adapter à cette situation récurrente? Je poserai la question à Samuel Vandel, le président du syndicat des jeunes agriculteurs, dans 20 minutes. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
On est ensemble jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir et on écoute ensemble Le Monde Changer sur Europe 1.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, il est 18h.
J'ai été comblée dans ce que je voulais comme combat. J'ai été comblée en amour. Plus j'ai réfléchi et plus je me dis, j'aurais jamais voulu avoir une autre vie.
Et oui, une belle vie de combat que fut celle de l'avocate infatigable de la cause féministe Gisèle Halimi, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 93 ans.
Quatre communes de Mayenne contraintes de vivre masquées, y compris dans la rue depuis ce matin. Nous serons à Laval dans un instant.
Le chausseur André, grande enseigne populaire française, emportée par le Covid et la crise économique, sauvée in extremis de la faillite par un repreneur un seul, mais ça ne se fera pas sans casse sociale.
Et Emmanuel Macron qui débloque 10 millions d'euros pour mieux rémunérer les heures de nuit des policiers, les syndicats sont attentistes.
C'est pas le tout d'annoncer 10 millions d'euros. Les 10 millions d'euros, on peut faire tout et n'importe quoi avec. Donc maintenant, évidemment, il faut des réunions de travail. Et ensuite, on pourra dire si on est satisfait ou pas.
Le trafic aérien ne reviendra pas à la normale avant 2024. Le gouvernement réduit la voilure sur le plan d'extension de l'aéroport de Roissy. La Bourse de Paris ce soir en léger repli, moins 0,22% à 4 928 points.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Bonjour à tous et c'est le retour du beau temps pour tout le monde en ce milieu d'après-midi. Grand beau temps partout, excepté quelques orages toujours sur les reliefs dans l'après-midi et une légère remontée des températures par rapport à aujourd'hui, même si le pic de chaleur est annoncé pour jeudi et vendredi, avec des maximales entre 20 à Saint-Brieuc et 38 à Avignon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Thierry Dagiral, François Clouse.
C'est une écrivaine, c'est une avocate, mais ce fut surtout l'une des grandes figures du mouvement féministe qui s'est éteinte aujourd'hui. L'avocate Gisèle Halimi avait 93 ans. Elle fut, Rémi Botsaron, ce qu'on appelle une pionnière. C'est elle, infatigable avocate, qui assumait comme un devoir d'être irrespectueuse. C'est elle, Rémi, qui ouvrit les portes dès les années post-68 du grand combat pour le droit des femmes.
Oui, grâce à deux procès retentissants. D'abord, le procès de Bobigny. On est en 1972. Gisèle Halimi défend une jeune fille de 16 ans poursuivie en justice pour avoir avorté après un viol. Et elle obtient sa relaxe en attaquant la loi qui interdisait l'avortement. Elle poursuit en fait un combat entamé un an plus tôt quand elle signait le fameux appel des 343. Ces femmes qui déclaraient publiquement avoir avorté. Ce qu'elle dit alors à l'époque permet de comprendre comment cette victoire a ouvert la voie trois ans plus tard à la loi Veil, donc à la dépénalisation de l'avortement.
Il y a cette revendication que j'estime absolument fondamentale pour les femmes que nous sommes d'avoir le droit de disposer de nous-mêmes. Le drame, je le disais, c'est que quatre femmes aient à s'adresser pour cela, parlant de sonde, d'utérus, d'avortement et de grossesse. Quatre femmes étaient aujourd'hui jugées par quatre hommes. Et voyez-vous, en raccourci, symboliquement, c'est toute la condition de l'oppression de la femme.
La condition de la femme, c'est encore ce qui est en jeu. Six ans après Bobigny, devant les assises d'Aix-en-Provence. C'est ce qu'on appellera le procès du viol. Gisèle Halimi défend deux jeunes femmes belges violées par trois hommes alors qu'elles campaient dans une calanque. Elle veut obtenir la criminalisation du viol. Les hommes sont condamnés. Deux ans plus tard, la loi change. Le viol est reconnu comme un crime. Deux procès, deux combats, deux victoires pour Gisèle Halimi. Cette femme, née dans un quartier pauvre de Tunis, qui avait refusé à 16 ans un mariage arrangé avant de partir en France, entamer des études de droit, cette femme s'impose alors au milieu de Simone Veil, de Simone de Beauvoir ou de Delphine Seyrig, comme l'une des grandes voix de la cause des femmes dans les années 70.
Et il est intéressant de noter, Rémi Botsaron, que les figures contemporaines du féminisme lui rendent un hommage appuyé ce soir, comme si le combat devait continuer. Pour l'une des porte-paroles d'Oser le féminisme, Céline Pic, elle refusait tout simplement un statu quo, pour elle injuste, qui continue, dit-elle, à nous inspirer aujourd'hui. Nous entendrons Céline Pic dans le journal de 19h.
Et puis le président Macron salue la républicaine passionnée pour qui le féminisme était un humanisme. Un exemple pour toutes et tous à jamais, commente l'ancien président François Hollande. On va en reparler dès 18h30 avec les grandes voix et avec vous au 39-21.
Europe 1, 18h04, le journal La Suite, Thierry Dagiral, François Clouse.
Les autorités sanitaires allemandes expriment ce matin, je cite, leur très grande inquiétude en rapport à l'épidémie de Covid et conseillent fortement désormais de porter un masque, y compris dans la rue, quand la distanciation est impossible.
Ce port du masque obligatoire dans l'espace public, quatre villes de Mayenne l'appliquent depuis ce matin, François.
La Mayenne, département métropolitain le plus touché par la pandémie, même si le taux de positivité reste stable autour des 3%, les autorités s'éclairent, ne veulent prendre aucun risque et c'est dans une préfecture, Laval, masqué que vous avez, Charles Guyard, passé votre après-midi pour Europe 1.
Oui, c'est en effet le cas depuis ce matin dans deux secteurs très fréquentés du centre-ville de Laval où les services n'ont pas eu le temps encore d'installer des panneaux, comme c'est le cas à Château-Gontier par exemple. Cela n'empêche pas les habitants d'être plutôt au courant, comme Marion, qui trouve même la mesure normale.
Ouais, c'est logique, ouais. Dans les magasins, quand les gens ils portent le masque, ils le mettent soit n'importe comment ou ils le mettent vite fait.
Un peu plus loin, dans cette rue piétonne, Jonathan, lui, est dubitatif. S'il se plie à la règle, il ne l'approuve pas spécialement.
Je trouve que c'est quand même infantilisant vis-à-vis de la population française. Oui, ils nous ont vraiment pris pour des enfants et ils continuent à le faire. Ils auraient pu simplement parler en fait, avec un discours de vérité, ça aurait été plus simple.
Ce discours de vérité, le maire de Laval, Florian Berco, se charge de le tenir, notamment en écartant la perspective d'un reconfinement.
L'hypothèse n'est pas sur la table aujourd'hui, à date. Je pense qu'il y a encore d'autres mesures qui sont possibles avant d'arriver à un reconfinement.
Et parmi ces mesures, il y a notamment l'isolement volontaire. À Laval, l'agglomération montre même l'exemple, malgré elle évidemment, puisque sur 1600 agents, une cinquantaine sont en effet assignés à domicile en ce moment, après avoir été en contact avec 7 de leurs collègues testés positifs. En outre, une trentaine d'autres personnes ont été envoyées dans des logements mis à disposition par la ville. Dans ce contexte, tout n'est cependant pas si sombre. S'il reste 14 malades hospitalisés en Mayenne pour cause de Covid, il n'y a plus aucun patient en réanimation à l'heure actuelle.
Merci Charles Guyard, notre correspondant dans l'ouest de la France.
Le tribunal de commerce de Grenoble valide l'offre de reprise du fabricant de chaussures André.
André est l'une des enseignes historiques très populaires françaises qui a eu bien du mal à surmonter la crise du Covid. C'est un ancien patron de l'entreprise qui relève le défi, mais il y aura malgré tout Clément Le Saff de la casse.
Oui, hein, François Feijo a dirigé André de 2005 à 2013. Les syndicats se souviennent que c'est le dernier à avoir réussi à faire gagner de l'argent à l'enseigne qui enchaîne depuis des dizaines d'années les difficultés. Mais la cure d'amaigrissement va être sévère pour André. Hein. François Feijo reprend seulement 55 magasins sur les 180 points de vente existants aujourd'hui et seuls 221 emplois seront maintenu sur 409. André, c'est pourtant une marque mythique du monde de la chaussure. L'histoire commence en 1896 à Nancy, quand Albert Lévy s'associe à un homonyme, Jérôme Lévy, pour se lancer dans la fabrication de chaussures. Ils ont une vision, il faut fabriquer et surtout vendre ensuite en masse des chaussures pas trop chères dans des magasins. Ironie de l'histoire, au début, ils optent pour Mathieu comme nom de magasin, rien à voir. C'est en 1904, quand ils rachètent deux boutiques qui, elles, s'appellent André, qu'ils décident de changer de nom. En 78, année record, le groupe écoule plus de 10 millions de paires. André comptera jusqu'à 500 boutiques en France et à l'étranger. Cette fois, la relance s'annonce beaucoup plus modeste.
Et il en restera sur ses 555 selon le plan de reprise. Merci Clément Le Saffre.
On va reparler également dans les grandes voies ce soir. 10 millions d'euros pour mieux rémunérer les heures de nuit des policiers. Ce fut la promesse d'Emmanuel Macron en visite surprise la nuit dernière auprès des policiers de la BAC Nord de Paris.
Des heures payées jusqu'à maintenant 97 centimes. Indigne pour les syndicats qui en avaient fait l'une de leurs grandes revendications. Des syndicats qui expriment ce soir globalement leur satisfaction, mais qui attendent malgré tout des retombées concrètes. C'est le cas de Fabien Van Emmerich, secrétaire général du syndicat Alliance, qui répond à Salomé Legrand.
On attend de voir vraiment qu'est-ce qu'on va faire de cette enveloppe. En effet, en annonçant une enveloppe, on fait un effet comme, c'est-à-dire ça c'est le côté politique, c'est qu'on annonce la reconnaissance de la pénibilité de nuit. Maintenant, nous, on veut être pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire avec ces 10 millions d'euros, comment ils vont être partagés et qu'est-ce que ça rapporte par fonctionnaire par cycle de travail effectué. C'est pas le tout d'annoncer 10 millions d'euros. Les 10 millions d'euros, on peut faire tout et n'importe quoi avec. Donc maintenant, évidemment, il faut des réunions de travail. Et là, on verra si la pénibilité de nuit est vraiment reconnue ou pas. Et ensuite, on pourra dire si on est satisfait ou pas.
Voilà la réaction de Fabien Van Emmerich, secrétaire général du syndicat Alliance. Le parquet de Paris ouvre finalement une enquête pour violence volontaire et injure publique au lendemain des révélations du site Street Press qui publiait le témoignage accablant d'un brigadier décrivant des propos racistes, des maltraitances récurrentes au dépôt du tribunal de Paris, là, vous savez, où les détenus attendent avant d'être jugés.
Il est 18h09.
Votre grand journal du soir revient sur Europe 1, François Claus, Cyril Agiral.
Le projet d'extension de l'aéroport de Roissy, le fameux T4, revu à la baisse, nous en parlons dans un instant sur Europe 1, à tout de suite.
La suite du journal sur Europe 1, François-Claude Thierry Dagirel.
Et ça devait être l'aéroport du futur, le fameux nouvel aérogare T4 de Roissy, susceptible d'accueillir 40 millions de voyageurs supplémentaires.
Oui, mais ça Thierry, c'était le monde d'avant le Covid. L'Association internationale du transport aérien estime par exemple aujourd'hui que le niveau de trafic d'avant la crise, celui de 2019, ne sera pas atteint avant 2024. Sur notre antenne ce matin, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport, était obligé d'admettre, Emmanuel Dutheil, que le projet pharaonique du T4 serait revu à la baisse.
Oui, et pourtant, les travaux auraient dû débuter courant de l'année prochaine. Mais voilà, Aéroports de Paris va revoir sa copie. Comme les prévisions de trafic sont orientées nettement à la baisse pour les années à venir, plus besoin d'agrandir de la même façon l'aéroport de Roissy. Il faut dire quand même qu'à terme, le T4 aurait pu être aussi grand que tout l'aéroport d'Orly. Mais voilà, les aéroports parisiens tournent toujours au ralenti. Imaginez, hier, il y avait seulement 27% du trafic de l'an dernier. Et le groupe, hein, tout comme les prévisions internationales, ne s'attend pas à un retour à la normale. Là, on parle même de 2027, hein, parfois, du côté d'aéroports de Paris. Ce qui va mettre du temps à revenir, ce sont les liaisons les plus lointaines. C'est donc sur un projet moins ambitieux que planche Aéroports de Paris, un projet qui sera aussi plus écologique que ce qui était prévu, hein, puisque dans tous les cas, le projet du T4 avait été fortement dénoncé ces derniers mois sur ce point. Les aéroports doivent prendre toute leur part dans la réduction des émissions de CO2, dit-on chez ADP. Et puis, le gouvernement veut que le projet réponde à l'avion du futur, un avion qui pourrait voler à l'hydrogène. Autant de considérations qui vont faire évoluer fortement ce projet, car la seule certitude, c'est que même si ça ira moins vite, le transport aérien est quand même voué à augmenter dans les décennies à venir.
L'aéroport de Roissy comme un raccourci de notre monde d'aujourd'hui. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe.
5000 personnes dans les stades, pas plus. Le ministère maintient donc la jauge sécuritaire jusqu'à la fin du mois d'août, avec la possibilité malgré tout pour les préfets, en fonction de la situation sanitaire de leur zone, eh bien d'accorder des dérogations au coup par coup.
Alors à défaut de pouvoir aller dans les stades, comment va-t-on suivre le foot, la L1 à la télé, et surtout combien cela va nous coûter? Alors pour rendre son offre plus attrayante, le groupe espagnol à capitaux chinois Mediapro, qui a déboursé, rappelons-le, plus d'1 milliard d'euros pour acquérir les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, annonçait ce matin Christophe Lamar être en mesure de codiffuser la Ligue des Champions, la prestigieuse, après un accord scellé avec RMC Sport.
Oui, et tout le monde y trouve son compte dans l'affaire. RMC Sport, en premier lieu, la filiale d'Altice, débourse 350 millions d'euros par an pour diffuser la Ligue des Champions. L'accord lui permet de partager les frais. Le groupe de Patrick Dahi trouve là un moyen d'alléger la facture alors qu'il doit gérer un plan social de grande ampleur. Pour Mediapro, la Coupe d'Europe, c'est le produit d'appel idéal pour séduire les abonnés. Son directeur général, Julien Bergeau, est convaincu de jouer gagnant.
C'est dire qu'on va avoir une seule chaîne qui va offrir le meilleur du football pour 25,90 €. Je pense que là, c'est vraiment une réponse qu'on peut apporter à tous ceux qui seraient tentés d'aller s'abonner à du streaming pirate pour suivre la chaîne Téléfoot.
Alors, 25,90 € à condition de s'engager pour un an. Sinon, ce sera 29,90 €. Mediapro a défini son objectif, atteindre la barre des 4 millions d'abonnés pour rentabiliser son investissement. Un chiffre qui laisse certains économistes et certains spécialistes des droits télé plutôt sceptiques.
Merci Christophe Lamar du service des sports d'Europe.
C'était le journal de François Claus. Retour de François à 18h30 pour le rappel des titres. La météo à présent. Valérie Darmon, du soleil demain partout, pour tout le monde, et très chaud, hein, très chaud dans la vallée du Rhône.
Et oui, ça commence. Alors, beaucoup de soleil déjà ce mercredi sur l'ensemble du pays, avec quelques nuages des Pyrénées au Massif central jusqu'aux Alpes. La grisaille du matin sur le sud de l'Aquitaine qui apporte quelques gouttes sur le Pays Basque et le piémont des Pyrénées Atlantiques avant de s'estomper. Et l'après-midi, les nuages qui ne se limiteront qu'au relief alpin et pyrénéen et ceux du Massif central. Sur le reste de la France, le temps est redevenu tout à fait clément. Les températures sont en baisse au nord avec des minimales de 9 à 14 degrés sur une grosse moitié nord de la France, 14 à 19 dans le sud-ouest, 18 à 23 dans le sud-est. En revanche, les maximales repartent à la hausse. C'est pas encore le pic de chaleur, mais quand même, il est en train de s'annoncer. Entre 21 à Dunkerque et 38 à Avignon pour l'après-midi de demain, 27 à Nantes, 30 degrés à Clermont-Ferrand, 32 par exemple à Mont-de-Marsan.
Merci beaucoup Valérie Darmon, la météo des plages à 18h30.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Thierry Dagiral, et votre invité dans un instant.
Oui, on va parler de les agriculteurs qui sont inquiets. Nouveau coup dur hein, après le Covid, alerte sécheresse dans plus de 50 départements ce soir. Les préfets prennent des mesures de restriction d'eau. Comment faire pour garder l'eau pour l'été? Je vais recevoir Samuel Vandel, le président du syndicat des jeunes agriculteurs, dans un instant sur Europe 1.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Thierry Dagiral, et votre invité. Vous recevez ce soir le président du syndicat des jeunes agriculteurs, Samuel Vandel.
Bonsoir Samuel Vandel.
Bonsoir.
Vous êtes en Seine-et-Marne, près de Paris. Hein. C'est l'un des départements français touchés par la sécheresse. Ça ressemble à quoi là autour de vous ?
Eh ben écoutez, aujourd'hui c'est vrai que c'est très très sec, donc on finit doucement les moissons, beaucoup de craintes entre autres vis-à-vis des départs de feu, ouais. Et beaucoup de craintes aussi pour envisager de pouvoir travailler correctement nos sols demain.
Chaque jour, le nombre de départements en alerte sécheresse augmente. On est à plus de 50 départements ce soir, notamment dans le nord-est de la France, où des interdits d'utilisation de l'eau ont été publiés. Hein.
Oui, alors ce sujet-là, c'est un sujet qui traîne depuis très longtemps. Les sécheresses, on voit bien qu'elles arrivent de plus en plus à répétition avec le dérèglement climatique. C'est pour ça qu'on mène aujourd'hui un projet assez ambitieux sur pouvoir stocker l'eau l'hiver qui tombe en abondance. Et on l'a bien vu cet hiver, hein, avec des quantités astronomiques d'eau qui sont tombées partout en France, de pouvoir la stocker pour justement pouvoir la redonner à nos cultures quand elles en ont besoin et avoir donc beaucoup moins d'impact et entre autres, beaucoup moins de prélèvements sur les nappes phréatiques.
Mais les écolos sont plutôt opposés à cela.
Écoutez, je pense que ça change petit à petit. Il s'agit de mieux communiquer sur ce sujet-là, parce que avoir des retenues d'eau, c'est pas seulement avoir de l'eau pour l'agriculture.
Bien sûr.
C'est aussi avoir des réserves en cas d'incendie. Et on l'a vu dans le sud de la France, où les pompiers sont souvent venus chercher de l'eau dans les réserves à incendie qui étaient dans les réserves des agriculteurs qui étaient déjà existantes.
Ouais.
C'est aussi réintroduire de la biodiversité. On voit aujourd'hui qu'on a des rivières qui sont complètement à sec, et donc on a toute une faune et une flore qui de ce fait-là meurt. Et donc, ça permettrait aussi de réintroduire un certain nombre de biodiversité partout sur le territoire.
Samuel Vandel, comment vous expliquez justement que ces sols ne retiennent plus l'eau ? Est-ce que c'est à cause de l'agriculture industrialisée ?
Non, c'est pas qu'elles retiennent plus l'eau, c'est qu'en fait nos terres et l'agriculture de manière générale, comme tous nos concitoyens, sont soumis à de plus fortes variations de température ou de plus fortes variations climatiques. On a beaucoup plus d'eau qui est tombée par exemple cet hiver, et là c'est vrai que depuis le mois de mars-avril, on est en déficit hydrique chronique. Et donc c'est pas dû à l'agriculture. Je pense que les agriculteurs, et aujourd'hui moi les jeunes agriculteurs que je représente, ont fait énormément d'avancées. Et d'ailleurs on le voit bien sur ceux qui mènent de l'irrigation. On se rapproche du goutte à goutte. On se rapproche de techniques beaucoup plus efficaces avec de l'irrigation des fois quand on le peut, plus souvent la nuit, pour qu'il y ait moins d'évapotranspiration. Tous ces sujets-là, on les a. Je pense que aujourd'hui, d'une manière globale, c'est le dérèglement climatique qui est là.
Samuel Vandel, vous précisément. Vous êtes dans les céréales, les betteraves, le maïs, le colza, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Vous arrivez à estimer vos pertes ?
Mais moi aujourd'hui, c'est vrai que, alors est-ce que c'est dû à la sécheresse ou à l'excès d'eau cet hiver ? C'est encore très compliqué à déterminer.
Bien sûr.
Moi aujourd'hui, oui, sur mon exploitation, j'ai 25% de pertes dues au dérèglement, alors dues à cette année climatique.
Ah ouais.
Après, je pense qu'il ne faut pas non plus... c'est pas catastrophique dans le sens où les années se succèdent et ne se ressemblent pas. Cette année, on a eu un phénomène très très spécifique, avec en plus un manque de gel, et je répète qu'on a aussi besoin d'avoir des hivers importants pour faire face justement aux bioagresseurs, pour limiter toute la présence par exemple de pucerons qui peut être un élément assez dangereux pour nos cultures. Mais c'est tout ce dérèglement là qui fait qu'on a des pertes. Donc nous, aujourd'hui, on a aussi un certain nombre de propositions. C'est pour ça qu'on expérimente avec les instituts techniques toute une série de techniques comme l'agriculture de conservation, régénératrice des sols. C'est pour ça qu'on souhaite aussi garder un tissu important au travers des prairies, de l'élevage, qui permet aussi de stocker, de capter du carbone et donc de limiter l'impact sur notre environnement.
Est-ce que vous dites aussi qu'il faut se diversifier, notamment il faut arrêter peut-être le maïs qui consomme beaucoup d'eau, on le sait ?
Je ne pense pas qu'il s'agit d'arrêter le maïs. La première partie de ce que vous avez dit est pour moi beaucoup plus importante, c'est être capable de se diversifier. Diversifier son exploitation, c'est être capable de mieux gérer les risques sur son exploitation. Ce n'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Parce que tous les ans, il y a forcément une culture, une production qui peut être soumise à un fort risque. Donc il s'agit de mieux gérer les risques. Et donc, en se diversifiant, que ça soit dans les cultures, mais que ça soit aussi dans la production, on le voit bien, et entre autres, suite au Covid, beaucoup d'agriculteurs et d'agriculteurs se relance dans le commerce direct pour être plus proche des concitoyens, permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc de moins fragiliser nos exploitations.
Samuel Vandel, cette sécheresse, c'est aussi un coup dur pour l'exportation. On exporte beaucoup de blé, nous, Français. Donc la conséquence va se voir aussi dans les quelques mois.
Je pense que la conséquence va se voir dans quelques mois. On va aussi attendre d'avoir un peu les résultats des différentes moissons de nos collègues européens et mondiaux pour voir comment se situe la France et pour voir comment demain on pèse vis-à-vis du marché mondial. Mais la situation, elle est partout. Hein. Moi, je pense aussi à tous mes collègues éleveurs qui aujourd'hui plus rien pour nourrir leurs animaux. Donc, ils sont obligés d'apporter du foin directement dans les prairies. Donc, ils sont en train d'attaquer leur stock d'hiver.
Et de prendre du fourrage, et ça coûte très cher le fourrage, on le sait, c'est quoi.
Et ça coûte très cher. Hein,
c'est 10 euros la botte, c'est ça.
Et voilà, donc il s'agit de mettre en place un système. Donc il y a des opérations qui se sont faites justement pour transférer de la paille et du fourrage des zones plus céréalières vers les zones plus d'élevage pour justement pallier à ce manque. Mais c'est vrai que cette situation se renouvelle de plus en plus et donc il va falloir adapter notre stratégie d'exploitation pour justement faire face à ce dérèglement.
Concrètement, ce soir, vous demandez l'aide de l'État. C'est par exemple un dégrèvement de fonds. C'est un accompagnement dans votre trésorerie.
Écoutez, on est en train de travailler sur tous ces éléments-là, entre autres avec le ministère de l'Agriculture. Mais ça reste des mesures qui sont conjoncturel. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose de plus structurel et se dire qu'ensemble, on va construire l'agriculture de demain. C'est être capable de mettre en place des retenues d'eau, c'est de mettre en place et d'accompagner les agriculteurs sur d'autres techniques, c'est être capable de renouer le contact entre agriculteurs et concitoyens. C'est tout ça qu'on demande à ce nouveau gouvernement. D'ailleurs, un sujet brûlant du moment, qui a rien à voir avec les céréales, le sujet du loup et de l'ours. Aujourd'hui, l'ensemble des éleveurs des zones pastorales vont remettre l'ensemble de leurs animaux dans les alpages et font face à des attaques très très nombreuses du loup et de l'ours. Et aujourd'hui, les agriculteurs ne peuvent plus faire face à ce phénomène-là. Il y a besoin d'avoir un vrai accompagnement, il y a besoin d'avoir une vraie stratégie pour savoir si on veut encore des agriculteurs nombreux sur tout le territoire, qui façonnent nos territoires, qui amènent une certaine autonomie, une certaine souveraineté alimentaire pour que demain, on puisse avoir une alimentation de qualité en France.
Justement, dernier point avec vous, Samuel Vandel. Je voyais ce matin à la une de l'Alsace, du Dauphiné ou encore du Bien Public, les prix des fruits et légumes flambent. C'est aussi la conséquence de ce qui se passe. Depuis le Covid, il y a une demande forte pour le Made in France, du local. La conséquence, c'est qu'on va payer aussi nos fruits et nos légumes sur les marchés plus chers aujourd'hui, parce que la demande est plus forte.
Alors, la demande est plus forte pour l'instant. En ce qui concerne les producteurs français, les prix n'ont pas augmenté à la sortie des exploitations. C'est-à-dire que je pense qu'on a une prise de conscience. Durant le Covid, les gens se sont tournés plus vers du français. Et c'est vrai que ici ou là, dans certaines productions, manger français peut coûter éventuellement plus cher. C'est pour ça que nous, on appelle les concitoyens à dire attention, manger français peut coûter plus cher, mais on peut combler ce déficit-là pas en ayant moins de gaspillage et donc en cuisinant mieux l'ensemble des productions. Mais oui, ça coûte un petit peu plus cher parce que la main-d'œuvre française n'est pas au même prix que la main-d'œuvre espagnole ou la main-d'œuvre allemande. Cette main-d'œuvre et cette production française est participe aussi à la solidarité nationale qui fait qu'aujourd'hui on a un système de retraite qui est important, on a un système chômage et une assurance chômage qui est importante que n'ont pas les autres pays. Et donc c'est la contribution, c'est un acte patriote et donc pour nous il est important que les Français sachent réellement ce qu'ils mangent et qu'ils puissent faire cet acte-là. Et puis il y a l'autre sujet, on a aussi toutes les normes, toutes les règles environnementales qui pèsent sur l'ensemble de l'industrie agroalimentaire française et plus particulièrement sur nos exploitations agricoles. Beaucoup de Français estiment que l'agriculture doit encore changer, doit encore avancer dans nos techniques. Moi, je leur dis banco, à une seule condition, c'est que vous mangez français.
Message passé. Merci beaucoup Samuel Vandel, président du syndicat des jeunes agriculteurs ce soir sur Europe 1. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Le rappel des titres et la météo des plages, puis les grandes voix ce soir. Virginie Leguet de Paris Match et Édouard Le Cerf de BVA. On va parler féminisme, Gisèle Halimi, et l'exécutif qui n'arrête pas de tendre la main aux policiers. Vos questions, vos réactions, 39-21, à tout de suite.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Avec le rappel des titres signés François Claus.
Elle se qualifie elle-même d'avocate irrespectueuse, pionnière du combat féministe dans la France des années 70. Gisèle Halimi s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Emmanuel Macron salue ce soir la mémoire de celle pour qui le féminisme était un humanisme. Redoutant une deuxième vague, l'Europe entière durcit ses mesures. L'Allemagne recommande le masque, y compris dans la rue et dans l'espace public. L'Espagne, qui enregistre une hausse de 92% des cas quotidien par rapport à la semaine passée, et la Belgique qui décide de réduire la fameuse bulle de contact de 15 à 5 personnes. L'Angleterre rend le port du masque obligatoire dans tous les magasins. 10 millions d'euros pour payer décemment les heures de nuit dans la police, c'est l'offre hier qu'a formulé le président de la République en visite surprise à la BAC Nord de Paris. Les syndicats de policiers, globalement satisfaits, restent prudents, attendent de voir comment cette enveloppe va être distribuée sur le terrain. La GPA demeure notre ligne rouge, notre texte est équilibré, il faut le préserver. Cela constitue une avancée majeure, plaide le Premier ministre Jean Castex cet après-midi à l'Assemblée nationale, au deuxième jour des débats sur la loi bioéthique. La Bourse de Paris en léger repli, moins 0,22% à 4 928 points.
Merci François, prochaine édition complète à 19h. La météo des plages, Valérie Darmon. Valérie, c'est le grand beau temps, grand beau et chaud demain.
Et oui, soleil absolument partout. Je commence par la façade atlantique avec des valeurs entre 26 et 28 degrés sur le sable depuis la Baule jusque sur Saint-Jean-de-Luz. Et l'eau de baignade, cet océan qui est très calme, entre 18 degrés et 23 degrés, quasi les mêmes températures que sur le sable. Même chose pour la Manche avec le beau temps retrouvé depuis Deauville avec 20 degrés sur les plages normandes et 20 aussi à Perros-Guirec jusqu'à 23 à Brest, la Manche qui est très calme, entre 18 et 20 degrés là aussi. Enfin, la Méditerranée, sans surprise, très beau temps. Une eau qui gagne quelques degrés au fil des jours, 22 en Roussillon, 26 dans les Alpes-Maritimes, 25 dans l'eau du Var et sur le sable, 32 à 33 degrés.
Merci Valérie Darmon.
Europe 1. Et dans votre grand journal du soir, on décortique l'actu avec les grandes voix. Thierry Dagirel, vous êtes ce soir avec Virginie Guay, chef adjointe du service politique de Paris Match, et Édouard Le Cerf, directeur adjoint de l'Institut BVA.
Bonsoir à vous deux, bienvenue, merci d'être là. Je voudrais qu'on commence sur la disparition, bien sûr, de Maître Gisèle Halimi, décédée à l'âge de 93 ans, une battante. Une combattante, c'est elle bien sûr qui est avocate au moment du procès de Bobigny. 1972, ce sera l'acte fondateur de la loi autorisant l'IVG en 1975.
Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité.
Virginie Leguet, est-ce qu'elle a fait bouger les lignes, les choses, contre vents et marées ?
Elle a fait formidablement bouger les lignes. Et elle les a fait avec une opiniâtreté dont peut-être les jeunes générations ne se souviennent pas. Moi, j'ai en mémoire le spectacle qui a eu lieu il y a quelques années à la Comédie Française, au Théâtre du Vieux Colombier, qui s'appelait Hors la Loi, ouais, et qui racontait le procès de Bobigny,
exact,
et les circonstances dans lesquelles ce procès a eu lieu. Je rappelle qu'il s'agissait d'une jeune femme mineure qui a été violée, qui s'est fait avorter par une faiseuse d'ange, parce qu'à l'époque, on ne pouvait faire que ça, et qui a été inculpée pour s'être fait avorter, bien qu'elle ait été violée. Et Gisèle Halimi a repris le procès et a totalement modifié, mais vraiment par la seule force de sa conviction, la mentalité de l'époque. Elle, la jeune femme et sa mère, parce que sa mère a également été poursuivie. Et je rappelle que la jeune femme et sa mère étaient d'un milieu assez simple et qu'elles se sont montrées d'un courage face à la complexité de la situation dans laquelle elles se retrouvaient, formidable, mais qu'elles ont été épaulées de bout en bout par Gisèle Halimi. Et moi, je garde un souvenir ému de ce combat-là, parce que c'est un combat qui a changé nos vies à tous, à tout jamais.
Sans ce procès, il n'y aurait pas eu la loi Veil de 75 ?
Bien sûr que non. Il n'y aurait pas eu cette loi. Il n'y aurait pas eu les autres lois qui ont suivi, qui ont prolongé le délai d'avortement et qui ont dépénalisé l'avortement.
Exactement, et d'autres dates importantes. 1978, aussi un autre procès, Aix-en-Provence, elle représente, Gisèle Halimi, un couple de femmes violées par trois hommes.
Ça deviendra bien sûr la nouvelle loi qui reconnaît le viol comme un crime, ça c'est important. Édouard Le Cerf, que dire de Gisèle Halimi? Qu'est-ce qu'elle laisse? Quel engagement elle laisse? Quel message elle laisse auprès de ces jeunes féministes dont on parle beaucoup dans l'actualité en ce moment?
Virginie Leguet vient de le dire, un message extrêmement fort, une histoire et des faits extrêmement forts, parce que c'était non seulement une pensée, mais c'était une pensée dans l'action. Et c'est là où c'est impressionnant. J'allais dire, par contraste, on peut presque se poser la question aujourd'hui, c'est une des grandes consciences de gauche, on peut dire. Hein, parce que
elle a été députée apparentée PS en 1980.
Voilà, de ces grandes consciences de gauche qui ont fait bouger les choses, qui ont fait progresser la société. On peut presque se poser la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui reste,
c'est ça.
Quels sont les éléments, quelles sont aujourd'hui les grandes consciences de gauche comme de droite d'ailleurs. Quels sont ceux et celles qui font avancer les choses avec cette force-là? Il y a sans doute des combats différents, ou les mêmes combats d'ailleurs à continuer à poursuivre, mais sur ces combats-là différents, c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'aujourd'hui, sans doute, les figures les plus emblématiques, si on parle par exemple de la question de l'environnement, sont beaucoup plus jeunes, mais ce sont aussi des jeunes femmes.
Ouais. Virginie Leguet, oui, allez-y.
Oui, je voulais rajouter une chose que Gisèle Halimi a dit à l'époque et qui m'avait beaucoup frappée, qui a frappé beaucoup de femmes de ma génération. Elle a dit « La libération de la femme passe par son indépendance économique ». Ça peut passer aujourd'hui pour une banalité. À l'époque, ça n'en était pas une. Et franchement, celles qui ont entendu cette phrase, c'est comme si elles avaient mis les doigts dans la prise. Et là aussi, c'est quelque chose de formidable d'avoir entendu ça d'une de nos aînées. Ouais. Parce que franchement, elle est morte à 93 ans au terme d'une très longue vie. Et de ça aussi, je lui en suis reconnaissante, parce qu'elle a eu le courage de le dire à un moment où la société, franchement, n'encourageait pas le travail des femmes.
Et Virginie Leguet, dans votre hebdomadaire Paris Match, elle disait en 2018, il y a des féministes aujourd'hui, mais des... non, c'est plutôt, oui c'est ça, elle disait, il y a des féministes aujourd'hui, mais des femmes comme Simone Veil, non.
Oui, parce qu'elles étaient amies, elle a raconté ça effectivement, à Paris Match, elle a raconté ça, on l'a appelée au moment de la mort de Simone Veil, elles étaient amies, mais profondément amies, bien qu'elles étaient extrêmement différentes.
Et comment elle voyait ces nouvelles formes de féministes aujourd'hui, on les voit dans l'actualité quotidiennement, est-ce qu'on peut parler d'opposition entre ces pionnières et ces jeunes femmes féministes aujourd'hui?
Je ne sais pas, je pense que ça ne sert à rien de parler d'opposition. Il y a comme une chaîne, comme un relais, et les femmes d'aujourd'hui ne sont pas les femmes de la génération de Gisèle Halimi. Le monde a changé, le pays a tellement changé, les mentalités ont changé forcément. Ce que disent aujourd'hui les femmes ne sont pas ce que disait Gisèle Halimi. Est-ce qu'elle était contre, est-ce qu'elle était pour? Moi, je dirais instinctivement qu'elle était pour tout ce qui pouvait contribuer à libérer la femme. Et franchement, on est aujourd'hui en 2020, il y a encore beaucoup à faire.
Il y a encore beaucoup à faire. En 2009, elle s'étonnait.
Donc les jeunes qui ont repris le flambeau, franchement, elles ont encore du pain sur la planche, du taf.
En 2009, elle disait, Gisèle Halimi, elle s'étonnait que les injustices faites aux femmes ne suscitent pas une révolte générale. On a vu ce qui se passe assez régulièrement, quotidiennement. Pour le coup, elle avait vu juste.
Oui, et c'est vrai que les injustices faites aux femmes ne suscitent pas toujours une révolte générale. Elles suscitent en général la révolte des femmes, mais elles ne suscitent pas toujours la solidarité des hommes. Et il faut bien reconnaître aujourd'hui, je sais que ce que je dis peut paraître un peu violent, mais il faut bien reconnaître aujourd'hui que la société est quand même dirigée par les hommes. Et quand les femmes ont des responsabilités, elles ont souvent des responsabilités un peu subalternes.
Ouais. Allez, on va vous donner la parole, vous, au 39-21. On va continuer à rendre hommage à Gisèle Halimi dans un instant sur Europe 1. Restez avec nous.
Sur Europe 1, le débat des grandes voix se poursuit dans votre grand journal du soir. Autour de vous ce soir, Thierry, Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match, et Édouard Le Cerf, directeur adjoint de l'Institut BVA.
Et on rend hommage ce soir à Gisèle Halimi qui est décédée ce matin à l'âge de 93 ans. Avec vous au 39-21, bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Vous êtes juriste?
Exactement,
vous
je suis juriste.
Vous êtes une jeune juriste de 35 ans. Quel regard vous portez sur Gisèle Halimi?
Je pense que ça, tout a été un peu dit. Moi, je suis la nouvelle génération, entre guillemets, parce que 35 ans, j'étais pas encore là quand elle a juste le moment pour les procès.
Ouais.
La femme vous dira que sans ces femmes-là, et Simone Veil en particulier, parce que aussi, je pense à elle aujourd'hui, sans ces femmes-là, pour ma part, je serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui. Mmh. Cette rage. Parce que malheureusement, on vit quand même dans un monde d'hommes.
Ouais.
Et il faut se battre beaucoup plus. Et ces femmes-là nous ont ouvert les portes.
Ce que disait à l'instant l'effet Virginie Leguet.
Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Puis le travail va être encore long, malheureusement, parce que comme elle le dit si bien, c'est Oui, quand il nous arrive des injustices aux femmes, c'est les femmes qui se lèvent. Et ce que nous, on attend, c'est les hommes aussi qui viennent à nos côtés. Et on en a encore que trop peu, même s'il y en a quand même beaucoup maintenant. Voilà, c'est une femme de droit. Et moi, pour voilà, je suis juriste, donc il y a aussi l'avocate. C'est un exemple, tout
merci.
Simplement un exemple.
Merci,
voilà.
merci.
Je vous souhaite une bonne soirée.
C'est adorable. Merci à vous, Laetitia, pour votre témoignage. Édouard Le Serre, vous qui sondez l'opinion en permanence, ces questions, elles sont aujourd'hui essentielles dans la société française. Il y a une prise de conscience, en tout cas.
Bon, on le voit bien, la société française a évolué de manière assez forte, malgré tout, sur tous les sujets relatifs à la société, aux nouvelles formes de reconnaissance des uns et des autres. La reconnaissance de cette différence, c'est vrai que c'est un des éléments qui est de plus en plus présent. Toutefois, encore une fois, on est sur une opinion qui s'exprime lorsqu'on l'interroge. Pour autant, c'est vrai que les éléments de mobilisation, c'est-à-dire passer simplement d'une opinion à avoir un comportement différent, ce sont encore des choses qui mettent un peu de temps à tarder. Il y a des choses qui sont ancrées et c'est vraiment là que l'on peut aider les choses. On le voit bien sur l'égalité homme-femme, c'est à travers les changements des comportements au quotidien, c'est apporter des petits gestes, c'est apporter des petites choses, c'est monter, montrer, donner des signaux. C'est bien sûr des grands discours, c'est bien sûr des prises de position fortes, politiques, mais c'est aussi au quotidien voir comment chaque petit geste au quotidien, chaque expression au quotidien peut changer les choses. C'est comme ça qu'on verra les choses évoluer plus vite dans les générations qui viennent et celles d'aujourd'hui.
Virginie Le Guay.
Je voulais juste rajouter une petite réflexion d'actualité récente. Pendant le confinement que nous avons tous vécu,
exactement.
Les femmes en ont fait beaucoup plus dans leur maison que les hommes, qui s'abritaient souvent derrière leur télétravail ou leur bureau ou leur dossier. Quant aux femmes, elles avaient la charge de leur propre travail, de leurs enfants et de la cuisine. Donc on en est quand même encore là, malgré 2 mois de confinement où tout le monde était à égalité, j'allais dire enfermé chez soi. Ce sont quand même les femmes qui assumaient l'essentiel des tâches.
Voilà. D'ailleurs, on a noté dans le baromètre qu'on avait avec Europe 1, le baromètre de suivi du moral des Français pendant toute cette période de Covid, on notait que on avait une note moyenne de morale des Français. Il y avait une différence entre les hommes et les femmes, sans doute, pour ces raisons-là.
La surcharge mentale.
Absolument, elle était là.
Voilà, en tout cas, c'est quelques mots qu'on voulait adresser et réfléchir ensemble, rendre hommage ce soir à Gisèle Halimi. Nous pensons bien sûr fort ce soir à Emmanuel Faux, grande voix pendant des années sur Europe 1, qui était le troisième fils de Gisèle Halimi.
Oui, elle n'a pas eu de fille, elle a eu 3 fils.
Exactement.
Et une petite fille
elle
dont elle était folle parce qu'elle avait
justement
enfin,
comment voilà, comment on
elle
élève
a transmis sa flamme peut-être.
Alors on va parler maintenant d'un autre sujet, ces marques d'amour de l'exécutif envers les policiers. C'était cet après-midi encore aux questions au gouvernement. Gérald Darmanin répondait à une question de la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot.
Il y a aussi des forces de l'ordre, madame, qui sont les premières victimes des violences. En 2019, c'est 11 000 policiers et gendarmes qui ont été agressés. En 2019, c'est 7 décès de policiers et de gendarmes en service qui n'ont pas retrouvé leur famille, qui n'ont pas embrassé leurs enfants, qui sont rentrés dans des conditions matérielles difficiles. Alors, madame la députée, nous sommes tous les deux d'accord pour dire que la liberté de manifester est grande dans notre pays. On a manifestement un désaccord. Pour ma part, je suis très fier de la police de la République.
Mais dites donc, c'est cacher ce castaner que je ne saurais plus voir dans le cerf.
C'est vrai qu'on a le sentiment, en écoutant, en voyant ce qui se passe, qu'aujourd'hui, l'image de la police est une image qui est un peu plus compliquée dans l'opinion. La réalité, c'est que lorsqu'on interroge encore une fois les Français, les 3/4 des Français continuent à soutenir les forces de l'ordre, et notamment les policiers, plus encore les gendarmes. Donc, il n'y a pas franchement complètement de phénomène de rupture de la confiance de l'opinion avec la police. Oui, ces éléments ont diminué. Oui, il y a eu une décrue. Oui, il y a eu des questions. Oui, il y a eu des actes effectivement malheureux. Oui, il y a eu des choses qui ont été mises en avant lors des conflits, au moment des Gilets jaunes. Et ensuite, il y a des éléments qui sont posés sur le rôle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette réhabilitation, en tout cas cette habilitation, la façon dont le gouvernement et dont le nouveau ministre de l'Intérieur met en avant la police, et le Premier ministre aussi, avec ses déplacements les plus récents, on pourrait compter le nombre de déplacements qui ont concerné directement, que ce soit la Courneuve, que ce soit Dijon, que ce soit Nice. On les prend comme effectivement comme un laboratoire. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, d'une part, je fais attention à maîtriser cette catégorie-là qui est très importante naturellement pour la République. Et je fais aussi attention à donner des signes à l'électorat qui n'a pas encore une fois une image complètement dégradée de la police et sur lequel on peut jouer, notamment sur cette corde de la protection. La protection va être partout, je pense, dans les mois qui viennent.
Virginie Le Guay.
si la journaliste politique que je suis ferait une réflexion tout à fait politique. On a entendu Emmanuel Macron, ou du moins quelques-unes de ses déclarations filtrées hier lors de sa... De sa visite.
Visite
ou de
dans
sa...
un commissariat parisien, auprès de la BAC.
Ouais. Je parlais de ses adieux devant les députés et sénateurs avant la coupure estivale.
Exactement.
Et on a bien compris qu'il était en haute campagne et qu'il était en campagne très active. Mmh. Et cette campagne, on voit bien comment elle se passe en ce moment. Elle se passe sur deux fronts. Elle se passe sur le front vert, si je puis dire, et elle s'adresse aux écologistes. Et elle se passe sur le front droit. Et le front droit, c'est les questions régaliennes, la sécurité et surtout la confiance que les Français ont dans le pouvoir de pouvoir régler les questions de sécurité. Et cette confiance était très atteinte quand Christophe Castaner était à l'intérieur.
Quand lundi soir,
et là, je
Sarkozy...
pense qu'il y a vraiment... on assoit sa base électorale de façon très forte. Et on essaye de l'agrandir en essayant de faire revenir à soi des écologistes, ça c'est moins sûr.
Quand lundi soir, Nicolas Sarkozy disait sur TF1 « Je n'ai pas été assez loin sur l'autorité », vous pensez qu'Emmanuel Macron, qui écoute beaucoup Nicolas Sarkozy, se dit « Tiens, la présidentielle, c'est dans 2 ans ».
Alors, l'autorité, c'est un des éléments, mais il faut avoir une forme de, il faut asseoir là, une forme de crédibilité. L'autorité en fait partie.
Ouais.
Moi, je pense qu'il ne faut, faut pas se tromper. Les gens ont besoin d'ordre, sans doute, un certain nombre le réclament, mais aussi de sens. Donc, il faut aussi donner du sens à tout cela. Et donc, il faut trouver quelque chose qui encapsule, j'allais dire, l'ensemble de ce qu'il va mettre en avant. Et Virginie Leguet le disait, on est d'ores et déjà en campagne, on va parler tout à l'heure peut-être du nouveau gouvernement, mais en tout cas on est en train d'organiser quelque chose qui est très clairement orienté. Alors le Premier ministre, qui est dans l'action quotidienne, parle de 600 jours, comme ça il peut les égrener, mais c'est vrai que dans la tête de tout le monde, c'est aller à la présidentielle. Et je parlais tout à l'heure de protection. C'est un terme, à mon avis, qu'on va voir faire floresse, parce que ce sera la protection des individus et de leur sécurité, ce sera la protection des emplois face à la crise, ce sera la protection... éventuellement sanitaire, si jamais il y a une nouvelle vague, et on voit qu'il y a des prémices là qui sont un peu inquiétants. Et puis, ça va être la protection des familles, ça va être la protection. L'Europe protectrice, souvenez-vous, en sortant du sommet européen, c'était l'Europe qui protège. Donc, cette protection, elle va se décliner, à mon avis, dans bien des matières, dans bien des sujets.
Allez, on continue à en parler dans un instant sur Europe 1, 39-21, si vous voulez intervenir. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix. Vous êtes ce soir Thierry Dagirel avec Édouard Le Cerf, directeur adjoint de l'Institut BVA, Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match, et vos réactions en direct au 39-21.
Et on parle de cette main tendue de l'exécutif aux policiers. Hier soir, visite surprise dans un commissariat parisien d'Emmanuel Macron, qui a annoncé une indemnité spécifique pour les policiers travaillant de nuit, 10 millions d'euros. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Lyon?
Oui, tout à fait, oui.
Au 39-21, on vous écoute.
Alors, donc,
c'est une bonne nouvelle,
nous,
ça on
Ah ben pour nous, c'est une bonne nouvelle.
On tenait nuit, des...
Voilà, donc on appelle, dans le jargon policier, on appelle je suis un nuiteux. Donc, 14 ans que je bosse de nuit.
Ouais.
Nous, on est quand même contents, puisque quelque part, c'est un petit plus pour le pouvoir d'achat. Mmh. Mais enfin, je pense que ça va être... c'est juste un effet d'annonce, en fait. Ça va faire comme pour les infirmiers, tout le personnel, tous les aides-soignants qui ont été un peu récompensés avec cette petite prime ou cette petite médaille qui va bien.
Ouais.
Nous, ça nous fait quoi? Ça va nous faire, en gros, 50 euros brut par mois pour calmer les nuiteux, sachant que les revendications des nuiteux, elles datent depuis une quinzaine d'années.
Oui, ça, Brice Hortefeux en parlait déjà en 2009, c'est pas nouveau.
Exactement.
Quoi. Bah, ouais.
Exactement.
Bon, mais c'est un début, mais ça va pas assez loin. C'est ce que vous nous dites.
Alors, c'est un début, ça va pas assez loin. Maintenant, est-ce que ça va être aussi en disant, est-ce qu'on n'a pas été peut-être, comme d'habitude, un petit peu vendu par nos syndicats, et là, je peux me permettre de le dire, dans la mesure où on est dit, ben voilà, vous avez votre prime, maintenant, on n'en parle plus, on passe à autre chose.
Ouais.
Comme, regardez, la preuve en est, pour les gilets jaunes, on a eu la prime, merci aux gilets jaunes.
Ouais.
C'est, là, on peut leur dire, on a une petite prime grâce aux gilets jaunes. Et puis maintenant, eh ben, tout le reste, on nous met des réformes horaires, on nous met des réformes de cycle, on nous met des réformes de travail, en nous disant, bah, écoutez, on a lâché 100 euros par mois,
mais
maintenant vous nous foutez la paix.
D'accord. Merci à vous Pascal de nous avoir contacté. 39-21, merci beaucoup. Néanmoins, Édouard Le Cerf, il fallait tendre la main aux policiers. On se souvient de ce mot encore il y a quelques jours, incivilité prononcée le 21 juillet par Emmanuel Macron, qui avait plutôt énervé les forces de l'ordre.
Oui, bah bien sûr, il y a une question, on le sait, il y a une remise en cause qui a été perçue. Alors, il y a des problèmes vraisemblablement d'effectifs, un peu comme partout, des problèmes de niveau de salaire.
Ouais.
Les revendications sont un peu partout, mais c'est vrai qu'il y a aussi sans doute une difficulté plus importante quand votre environnement et le sentiment que vous avez de ne pas être soutenu, soit par l'opinion, soit par le pouvoir politique, ça rend les choses encore plus compliquées. Et là, on est dans ce moment-là. C'est vrai, je le disais tout à l'heure, encore une fois, l'image de la police n'est pas si dégradée que cela, au contraire. Mais c'est vrai que les quelques mois qui viennent de passer, on peut remonter ça à la période des Gilets jaunes, il y a eu des remises en cause, il y a eu des interrogations, et ça place naturellement ceux qui des forces de l'ordre dans une situation qui est moins confortable. Et dans ce cas-là, vous avez plutôt tendance à aller revendiquer des choses, y compris sur votre bien-être, y compris sur votre manière de travailler. Mais c'est un halo un peu général qui amène à une forme de tension plus singulière.
Virginie Le Guy, on va faire un peu de politique de votre domaine. On est à 2 ans de la présidentielle. Quand politiquement, Darmanin donne une interview au Figaro, parle d'ensauvagement de la société, on sait qu'il reprend exactement les termes de l'extrême droite. Bien évidemment que derrière, il y a un calcul très politique à 2 ans d'une présidentielle.
Oui, alors si le calcul est d'essayer de récupérer une partie des voix du Rassemblement national, c'est un calcul qui a déjà été fait par le passé par d'autres représentants de la droite et qui à chaque fois s'est avéré totalement perdant. Et Jean-Marie Le Pen avait cette formule...
En 2007, pas complètement.
C'est ça, Sarkozy, une fois en 2007. Ouais, ouais. Jean-Marie Le Pen avait eu cette formule entre la copie et l'original. Les électeurs préfèrent toujours l'original. Et les électeurs qui, effectivement, en 2007, sont partis vers Nicolas Sarkozy, ne sont plus jamais revenus vers la droite. Ils sont repartis au Front National. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait de nouveau un mouvement de l'extrême droite à la droite. Ouais. D'autant que, me semble-t-il, mais je ne sais pas ce que va dire Édouard, me semble-t-il que la base électorale d'Emmanuel Macron, elle est plutôt au centre-droit. Et la droite vraiment dure, il ne l'a pas encore tout à fait. Alors, est-ce qu'il essaye de l'avoir dans la perspective de 2022? Et est-ce que c'est pour ça qu'il utilise ce thème extrêmement clivant, mais qui peut peut-être lui ramener à lui des électeurs perdus? Ça, c'est possible.
Alors, qu'est-ce qu'il répond, M. Le Cerf?
Oui, il répond que Emmanuel Macron n'est pas positionné exactement comme Nicolas Sarkozy au départ.
Ouais,
donc,
voilà,
s'il va piocher à droite, il va piocher un peu moins à droite que Nicolas Sarkozy qui était à droite. Chacun des deux va sans doute chercher un peu à sa droite, mais étant positionné de manière un peu différente au départ, eh bien oui, c'est vrai que c'est un peu plus loin pour un Emmanuel Macron d'essayer d'aller chercher de ce côté-là, d'autant plus que ce qu'il a fabriqué pour l'élection présidentielle, ce qu'il a fabriqué de nouveau pour l'élection européenne, c'est deux blocs qui s'affrontent. Donc il va falloir au contraire trouver des points sur lesquels les gens ne vont pas être d'accord et pas forcément jouer la même musique que ce camp-là dont il veut faire, effectivement. Alors les électeurs sont toujours les bienvenus, mais en tout cas, il va falloir qu'il marque, effectivement, qu'il donne des marqueurs très clairs pour rejouer cette idée de ce sont deux camps qui
s'affrontent. Et les marqueurs, Virginie Le Guay, on les entend, tolérance zéro, enfin voilà, ce sont des références et des mots qui tapent les esprits, qui frappent les esprits.
Oui, et en même temps, Édouard Le Cerf vient de le dire, Emmanuel Macron, il joue aussi sur... l'affrontement qu'il espère, dans le fond, avec le Rassemblement national. C'est cet affrontement-là qu'il a eu en 2017, l'a porté à l'Élysée. Et il compte bien que ça se reproduise. J'ajouterai une toute petite remarque. Il semblerait malgré tout que l'étau se desserre un peu depuis la montée en puissance des écologistes. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera à la présidentielle. Je ne sais pas si la candidature écologiste réellement sera solide, se fera, si elle sera soutenue par les socialistes. Enfin, on verra bien. Il y a beaucoup de divisions entre ces différentes parties-là de l'électorat et des responsables politiques, et je ne sais pas s'il y aura une candidature unique. Mais Emmanuel Macron, il joue clairement son élection face à Marine Le Pen. Il pense qu'il l'a battue une première fois, il pense qu'il la battra une seconde fois.
Et pour être complet ce soir, la réponse du pouvoir est indigente, c'est ce que dit Marine Le Pen dans une vidéo sur Twitter. Merci à vous deux, c'était un plaisir de vous recevoir.
Merci.
Grand
plaisir
merci
partagé,
à vous.
Bonne soirée.
Merci à vous.
Merci dans votre grand journal du soir, Thierry Dagiret.
Dans un instant, le journal de 19h, l'astronaute français Thomas Pasquet va se rendre une nouvelle fois dans l'espace et ce sera au printemps prochain.